Une vie, une œuvre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Céline Duchesnay et Laurent Polleret nous offrent le portrait du photographe et peintre français Pierre Molinier. Né le 13 avril 1900 à Agen, c'est à 75 ans qu'il nous quitte volontairement, le 3 mars 1976 à Bordeaux. Tableaux érotiques et photomontages, mise en scène de son propre corps et autoportrait travesti, culte de l'androgynie et fétichisme des jambes, il nous laisse une œuvre pour le moins singulière et énigmatique.
Pierre Molinier, à mon seul plaisir, un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret.
Et je me souviens d'une image dans le film de Raymond Borde dont j'étais hanté quand j'allais le voir.
Jacques Abeille.
C'était une énigme. Je voulais savoir qui était une figure féminine que dans le film de Raymond Borde, on voit monter vers l'atelier de Pierre Molinier. Il était dans un vieux immeuble de la rue des Fossés, avec un très bel escalier, comme les anciens immeubles du vieux Bordeaux. Très beau. Et on voit de dos, je pense que c'est en plan américain, on la voit pas entièrement, mais enfin, on voit une femme avec la tête couverte d'une mantille et toute vêtue de noir. Molinier, mais qui est cette femme? Parlez-moi de cette femme. Il m'a jamais dit. Mais je pense que la clé de l'énigme, c'est que c'était lui-même, tout simplement. Mais j'étais un petit jeune homme très, très timide, et puis je ne poussais pas l'imagination jusqu'à ce degré d'indécence ou de singularité. Ce qui fait d'ailleurs que le jour où il m'a mis en face de son goût du travestissement, j'étais quand même un peu suffoqué, d'autant plus que j'étais pas seul. Il y avait un professeur de philosophie du lycée Montaigne qui me dit « Ah bah écoutez, j'aimerais bien, parce que, etc. » Bon, je dis « Oui, je peux demander à Molinier de nous recevoir. » Et j'écris à Molinier, « J'ai un collègue qui souhaiterait vous connaître. » Montrez-lui tout ce que vous m'avez montré, etc. Alors moi, j'étais coincé par un horaire. J'étais pion à l'époque, très modestement, au lycée Montaigne. C'était pas très loin de la rue des Fossés. L'homme qui m'avait demandé de l'introduire était terrifié. Terrifié. Et effectivement, il y a de quoi. C'est-à-dire qu'un monsieur relativement âgé, qui est à peu près septuagénaire, qui vous reçoit revêtu d'une robe de chambre bleue, très confortable, très beau bleu, et avec des mules de cuir aux pieds, enfin très bon, qui tout d'un coup enlève la robe de chambre, se met un masque, un demi-masque, toute la partie supérieure du visage masqué, et apparaît comme un hybride assez étrange. Chaussures escarpins à haut talons, vernis noir, bas noir, des jambes magnifiques, hein. Il avait de très belles jambes. Hein. Il n'était pas de grande taille, mais il avait dû être très joli garçon, et ça restait un bel échantillon humain. Des bas noirs, des bas fumés, porte-jartel, culotte noire. Il va, il vient comme un modèle. Et de dos, des fesses ravissantes, ravissantes. Ensuite, un serre-taille, au-dessus duquel, évidemment, il y a le buste d'un... Alors, le buste est celui d'un adolescent, hein, ce sont des membres déliés, fins, d'une couleur ivoirine, c'est encore beau. Des bas, évidemment, donc on ne voit pas les mains. C'est quand même une chose qui se marque, les mains. Donc, des gants montants. Et au-dessus de ça, ce masque, qui est un masque neutre, mais rouge. rouge. Un peu émacié, un peu marqué quand même, le menton, les joues creusées, et puis ce masque. Et de là-dessous, sort la voix, un peu aigrelette, un peu, avec un accent à gêner, à couper au couteau.
Comme toutes les deux sont ont des godemichés, vous voyez, il y a le godemiché au talon ici.
Oui.
C'est une invention à moi, si vous voulez, mais il paraît que les Chinois l'ont déjà fait. Je l'avais fait après les Chinois, mais sans me rendre... C'est un ami, je ne sais pas, un ami qui est très au courant de beaucoup de choses, qui me dit, mais vous savez que cette invention, les Chinois l'ont fait avant vous. Ah, j'ai dit, va te faire foutre, alors je n'ai rien trouvé. Oui, avec la tache du talon,
par exemple.
Oui, oui.
Je ne crois pas.
Non, je ne crois pas. Seulement, qu'est-ce que vous voulez, de la manière dont ça se trafique, vous voyez. Regardez, vous voyez. La manière dont vous mettez la jambe, n'est-ce pas, avec le talon. Alors, vous pouvez, une femme, par exemple, elle peut se masturber par devant et se masturber avec l'autre pied par derrière, des deux côtés. Tandis que les hommes sont limités, n'est-ce pas, à une ouverture. Les dames, elles en ont deux.
C'est très émouvant d'entendre la voix de Molinier.
Pierre Petit.
C'est une voix pas très typique de la région du Sud-Ouest, mais avec une personnalité très forte et un manque d'inhibition qui est tout à fait spectaculaire. Il peut parler des choses les plus sexuellement marquées, sans aucune hésitation, sans craindre le qu'en dira-t-on. Il lâche les choses violemment et sans aucune retenue.
Ça donne un personnage très composite, par lequel on est saisi, parce qu'il avait le sens d'une certaine théâtralité. Hein. Et la rencontre continue, parce que Molinier, à ce moment-là, prévoit, nous ayant donné cette révélation, de nous en donner le résultat, c'est-à-dire sa projection de diapo. On est en début de rencontre. Or, moi, j'ai mon service, j'ai une étude à prendre en charge au lycée Montaigne, à 5h30, après la fin des cours, puis il faut que je parte à ce moment-là, parce que j'ai la rue, tout le vieux Bordeaux à traverser pour remonter jusqu'au lycée Montaigne, cours Victor Hugo. J'ai dit au prof, écoutez, cher ami, je vous laisse avec Pierre Molinier, j'ai créé le compte. Ah non, ne me laissez pas, ah non, je vous en prie, ne me laissez pas. Qu'est-ce que vous craignez, il ne va pas vous manger quand même. Ah non, mais s'il me fait des propositions. Je lui dis, écoutez, vous êtes un grand garçon, si vous faites des propositions, vous voulez savoir si ça vous tente ou pas. Moi, je n'irai pas. Mais vous pouvez courtoisement dire, écoutez, non, ça ne me tente pas, mais ça m'étonnerait. On est là pour voir... Ah non. Alors tout ça à mi-voix, pendant que Molinier nous regarde, en se demandant qu'est-ce qui arrive. Et j'ai dit, Molinier, je suis pris par mon travail et ce monsieur ne peut pas rester. Bon, mais au revoir. Il a très mal pris. Quand la fois suivante, je suis revenu le voir pour m'excuser de nouveau. Il me dit, ce connard, c'est pas la peine qu'il revienne. Hein. Je vous préviens, je ne veux pas le voir.
Chavot, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez rencontré Pierre Molinier ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Est-ce que vous lui avez expliqué votre démarche ? Comment ça s'est passé ?
D'abord, je n'étais pas tout seul. Je suis allé avec un copain parce que je ne brillais pas par mon courage. Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Je ne lui ai pas du tout parlé de ma démarche, pas du tout. Parce que je me vivais comme un petit débutant provincial sans intérêt. Donc j'étais plutôt dans la fascination et dans le questionnement, c'est-à-dire je voulais le voir vivre simplement, déjà avoir le contact. Le seul fait que cet homme nous ouvre sa porte, c'était extrêmement précieux et je me souviens très bien du moment où il a ouvert sa porte et où je me suis trouvé en face de ce petit homme, il mesurait 1m60, qui s'était habillé avec des bas pour nous recevoir, avec le vernis sur les ongles, etc. Il avait gardé son visage, il n'avait pas mis les fausses joues ou les masques, mais donc il était, comme il disait, il s'était déguisé avec ses trucs à la con, c'est ce qu'il disait. Et il nous a ouvert sa porte en ricanant, mais un ricanement, quelque part j'ai écrit sans ricanement de saint, c'est pas tellement ça, c'est un ricanement bienveillant, sympathique. C'était même pas style, je vous ai fait un bon coup, mais je vous ouvre comme je suis. Voilà, il nous a ouvert la porte, et puis il nous a dit asseyez-vous, et puis il continue à parler, ce qui était frappant, comme si on l'avait toujours connu, comme si on était de la famille. Et qu'on était tout de suite très très à l'aise.
Et puis il y avait un autre truc, c'était le petit Jésus dans le trou du cul. Il avait démonté un crucifix banal, sur lequel se détache et crucifie une figure de bronze. Bon, ils discutaient. Alors, il y avait une bête noire, pour lui, c'était les curés, la religion, etc. Et certaines personnes, il avait le pressentiment de leur sensibilité, ils branchaient sur la question de la religion. Et quand la personne s'engageait, à ce moment-là, mais tu sais ce que j'aime faire, ton petit Jésus ? Il se débraquetait, il baissait le pantalon, il tendait son cul dans son plein établissement, et là, l'autre, stupéfait, voyait qu'il avait dans l'anus enfoncé les pieds du petit bronze. Le Christ, les bras en croix dans l'arrêt des fesses. Voilà ce qu'il faisait. Oui, alors, c'est un aspect. Bien sûr, côté militant de l'athéisme, c'était peut-être ça l'objectif principal. Mais enfin, il y a une composante exhibitionniste, non ? Moi, je ne ferais pas. Moi, je n'oserais pas montrer mon cul comme ça.
Night covers all, and though fortune may forsake me, sweet dreams will ever take me home.
On se trouve en face d'un petit chanoine de province avec l'accent d'Agen, qui parle de cul, de godemiché, de trou du cul, etc., avec cet accent. Et tout en essayant de bricoler, de déplacer les choses, commencer à nous montrer ses photos, etc. Dans une attitude extrêmement généreuse, on était jeunes, il devait aimer les jeunes. Et puis, éventuellement, il pensait qu'on pouvait être des partenaires aussi. Et donc, ça lui plaisait beaucoup de recevoir des jeunes. Il ne nous posait aucune question sur nous. Et il faisait en sorte que... Mais ce n'était pas une démarche de sa part, il était tellement naturel. Je me suis rendu compte après d'ailleurs qu'il ne faisait aucune différence entre le personnage privé et le personnage public. Il était exactement dans le privé comme il était publiquement. Et ça, on n'a pas l'habitude. Les gens prennent souvent ça pour de la provocation, ça n'en est pas. C'est simplement dans l'interprétation qu'on en fait qu'on peut le percevoir comme une provocation, ce qui n'était pas du tout le cas. Il était extrêmement naturel et d'un naturel confondant dans le sens étymologique dans le sens où on se sentait confondu et où on se rendait compte qu'on n'était pas capable nous-mêmes d'être comme ça, mais que c'était possible, nous montrer que c'était possible dans l'ordinaire de la vie, voilà.
C'est un homme très convaincu, acharné à soutenir et à défendre sa singularité. Et ce qui faisait de lui aussi bien un homme charmant qu'un personnage extrêmement irascible. Moi, je sais en tout cas que je marchais un peu sur des œufs. Je me disais, il ne faut pas que je dise quelque chose qui va le froisser, parce que je vais me faire incendier, au sens propre du terme. Ça partait comme un incendie, ça se pétaradait. Et en même temps, je trouvais extrêmement gentil. Il y avait un très bon fond dans les relations.
Dans les années 60, quelle était justement la réputation de Pierre Molinier? Qu'est-ce qu'on disait ou qu'est-ce qu'on racontait sur lui?
On ne peut pas dire qu'il défrayait la chronique. Les choses sont, à Bordeaux sont très assourdies. Je pense qu'on avait un peu un sourire narquois. On tenait à distance. En fait, les gens n'avaient même pas... c'est ça, la censure la plus spontanée. Les gens n'avaient même pas envie de l'évoquer. On n'en parlait pas, c'est tout. Il était interdit à l'antenne, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un inconnu. Il avait eu sa place et puis il s'était fâché, évidemment. C'était pas un milieu énorme, le milieu des peintres bordelais, des peintres locaux. Il n'avait jamais pris le virage pour faire une carrière parisienne, d'abord. Donc, au niveau de la surface sociale, c'est un peintre local. Il y en avait quelques autres, de bonne qualité, qui faisaient des choses très différentes. Un jour, il appartenait donc à un groupe de peintres bordelais. Un jour, il monte, il le racontait, combien de fois je l'ai entendu raconter ça. Et je pense que s'il le racontait en ricanant si fort, je pense qu'au fond, ça lui a fait de la peine. Mais en même temps, il avait un caractère très entier. Donc, aujourd'hui, au jour de l'accrochage, il se pointe dans la galerie. Et là, les autres, un peu les deux pieds dans le même sabot, disaient « Non, écoute, Molinier, non, ça peut pas passer, ça, tu comprends, on essaie de faire notre place, tu te rends pas compte, enfin, embrouillé, on voulait pas de sa peinture. » On prend une colère, il dit pas très bien, et il va chercher un drap noir. Donc la peinture était, je ne sais plus si elle était à la cimaise ou si elle était sur un chevalet. Il couvre entièrement le tableau du drap noir, qui fixe derrière. Et sur ce drap noir, il épingle sa carte de visite, Pierre Molinier, sous-titré « Artiste censuré ». Voilà, bon. Ben les autres ont accepté. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient rien faire. Mais ça a été la rupture.
C'était des emmerdeurs, des conformistes, des gens qui... le président était un dentiste qui essayait surtout, il peignait. Et alors, il peignait et il essayait, ça lui servait surtout comme relation pour avoir pour arranger des dents. Et c'était... Je dis, moi je vais foutre le camp de cette société, mais je vais pas partir comme ça. Alors, je fais ce tableau, vous voyez, qui est le grand combat ici. Oui. Le président me dit, écoute, vraiment, le lendemain, il me dit, on ne peut pas exposer un tableau comme ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous y voyez? Il me dit, oh oui, mais enfin, on voit bien que c'est une femme qui fait l'amour avec un homme, alors c'est pas possible, et ainsi de suite, tout ça. Enfin, je dis, moi, j'épais ce tableau, et puis ce tableau sera accroché. Alors tous les sociétaires, enfin ceux qui étaient là, décrochent leur tableau. Une fois que les tableaux ont été décrochés, je dis, bon... Écoutez, c'était un coup monté, bien entendu. Je dis, écoutez, il y a une chose, si vous voulez, le tableau restera accroché, mais je le voilerai. Alors, je l'ai voilé avec un voile noir. Ah, on me dit, c'est très bien. Bon. Seulement, j'avais préparé une proclamation dans laquelle je l'ai traité, je l'ai foutu plus bas que terre, il y avait des mots grossiers, etc. Alors, tout le monde avait, quand on a vu le voile noir, tout le monde a raccroché les tableaux, tous les sociétaires. Bon. Alors je sors ma proclamation, si l'on peut dire, je l'accroche. Oh, dit le président, oh, mais on ne peut pas, c'est pas possible de voir une chose. Oh, c'est pas possible. Alors l'après-midi, au vernissage, ça s'était dit. Alors ce vernissage, il y avait un monde fou, parce qu'on avait dit, il y a un tableau scandaleux qui voilait de noir. Alors le président avait mis, j'avais laissé ma proclamation, mais rectifié, rayé. Alors le président avait mis devant son tableau, il avait mis une autre chose où il disait qu'il regrettait les incidents qui étaient arrivés. Alors les gens allaient de la proclamation à lui. Alors, c'était amusant.
Mmh. Françoise Garcia, est-ce que vous pourriez retracer les grandes étapes artistiques de l'œuvre de Pierre Molinié ?
Oui, on peut dire que l'œuvre de Molinié a connu trois périodes. Alors, la période de la peinture de la fin des années 20, 1928-1930, et qui correspond avec son activité au sein du groupe des indépendants bordelais, où il peint essentiellement des paysages de type impressionniste et des portraits. Il y a une seconde période quand il abandonne les artistes indépendants avec le début de sa peinture érotique et notamment avec celle qui fera scandale, Le Grand Combat. Là, il y a une période d'une dizaine d'années où il peint essentiellement et évidemment, il se retrouve un peu seul à Bordeaux. Et c'est à ce moment-là, dans les années 1955, qu'il commence à envoyer des photographies de ses œuvres à André Breton. Et cette période aboutira à l'exposition de 1956 à l'Étoile Scellée à Paris, la galerie des surréalistes.
Comment est-ce que André Breton percevait Pierre Molinié ? Parce qu'on a des lettres où il parle de Pierre Molinié.
Alors, c'est vrai qu'il y a des lettres dans le premièrement dans sa correspondance. Hein, il parle de Pierre Molinié. J'aime votre climat brûlant et déchirant. Il me paraît difficile de porter le trouble plus loin. Elle parle des œuvres photographiées. Elles sont aussi belles que scandaleuses. Enfin bon, il s'émerveille devant ses œuvres. Et c'est vrai que ça a été une fête pour Molinié. Il avait découvert quelqu'un d'extraordinaire, une œuvre qui le fascinait. Et cette exposition a été quand même, pour Molinié, très importante. Mais Molinié, c'est vrai que, bon, on peut penser que Molinié pouvait peindre, pouvait travailler selon un principe d'association d'idées qui était celle des surréalistes. Mais petit à petit, je pense que Breton se rend compte, à partir du moment où il lui envoie quelques reproductions de ses photomontages, que finalement, il va au-delà de ce qu'il pensait, de ce que devait être l'art érotique. Hein, ce que peignaient les artistes dans le domaine de l'érotisme devait être une sorte de sublimation, une transposition, si vous voulez, des choses. Alors que Molinié, lui, présentait directement ses fantasmes de manière extrêmement crue. Et ça, je pense que ça a heurté les sensibilités des surréalistes et notamment celles de Breton. Et puis, une troisième période qui, on peut dire, va des années 1960 à la fin de sa vie. Hein, il meurt en 1976, qui sera celle des photomontages. Voilà, et c'est une période extrêmement importante et c'est la période qui aura le plus de retentissement chez les artistes contemporains, chez ceux qui s'inspireront, qui connaîtront Molinié et qui s'inspireront de son œuvre. C'est cette période des photomontages et qui est une période à la fois où il s'exprime lui-même complètement dans cette création, mais aussi où il fait preuve de créativité photographique, bien évidemment.
Chez Molinié, la photographie prend tout son sens. Photographie dessinée avec la lumière.
Gilles Berquet.
C'est-à-dire que lui, il part du noir et on a l'impression, par le traitement qu'il fait de ses images, avec ce petit halo, qu'il a éclairé la scène avec, dans le faisceau d'une lampe de poche. Pas de lumière du jour chez lui, on n'est pas en plein jour, on n'est pas baigné dans la lumière. Pas non plus une batterie de flash compliquée qui explose et qui façonne la scène. Non, c'est quelque chose de très intime. C'est on pointe avec la lampe de poche vers le sujet, qui est lui-même le plus souvent, mais qui peut être des modèles féminins d'ailleurs. Et de temps en temps, des détails, ses jambes ou un portrait d'Annel, du petit vampire. Mais généralement, il coupe pas le modèle. Le modèle est tout entier. Et dans un décor qui est toujours le même. Le décor a en même temps beaucoup d'importance et très peu d'importance. Beaucoup d'importance parce que c'est son lieu. On reconnaît toujours le paravent avec la toile de Juilly, ses tableaux, les chevalets, des accessoires. De temps en temps, on aperçoit la poupée ou le buste de la poupée. On peut apercevoir aussi son lit, parce qu'il travaillait dans une pièce qui était très exiguë. C'est un tout petit appartement à Bordeaux, rue des Fossés. Et en même temps, ça n'a pas d'importance, parce que c'est interchangeable. Il aurait vécu ailleurs, ça aurait été le même décor, et le décor est toujours constant. Il s'en fout un petit peu du décor. Il est là parce qu'il est bien obligé d'avoir un fond, mais c'est comme un fond, il aurait pu mettre un fond neutre, voilà. Quand j'ai eu l'occasion de voir en vrai, en réel, ces photographies, ces tirages, donc, on est en présence de petits objets. C'est rarement au-dessus du 13-18, puisqu'il travaillait avec une chambre en bois au format 13-18, et qu'il n'avait pas d'agrandisseur, en fait. Il travaillait tout par contact. Que ce soit les photomontages qui collaient et qui reproduisaient, et qui refotographiaient, mais comme il n'avait pas d'agrandisseur, c'était au format du négatif, donc à 13-18. Donc c'est un petit objet qu'on tient dans la main, à peine plus grand qu'une carte postale. Et c'est ce que j'aime, moi, dans la photo. J'ai toujours été passionné par la photo ancienne, 19e, qui sont généralement aussi des petits tirages. Aujourd'hui, la photo contemporaine ne peut pas s'empêcher d'être grande, immense même, et rigide. On peut pas la plier, alors qu'une photographie, c'est quelque chose qu'on peut plier à la limite pour mettre dans son portefeuille. C'est le poilu de la guerre de 14 qui emmène la photo de sa bien-aimée dans son portefeuille, et qu'il la plie de temps en temps, il la déplie pour la regarder. Et moi, j'aime cette relation à la photographie. C'est-à-dire, c'est un petit objet qu'on tient dans ses mains et qu'on peut regarder individuellement, secrètement même. Et dans le cas de la photo érotique, effectivement, c'est davantage secrètement que publiquement. Et alors, il utilisait un papier très très mat, très velouté. Alors autant moi j'aime les papiers brillants, et j'aime tirer sur des papiers brillants. Mon fétichisme est plutôt de l'ordre du cuir verni, et le sien du velours sombre et mat. Et donc ces petits objets molinesques, qui sont des petits bouts de papier noirs, et dans lequel, au centre, dans un halo, on voit une petite image secrète qui se révèle à vous. Ça m'a fait un effet fou, ça, en fait.
Mirka Lugosi.
Sur cette noirceur qui sculpte, en fait, la lumière, comme dans ses peintures, quand il galbait les jambes, alors avec les résilles, c'est un artifice pour faire ressortir le volume d'une jambe, nous sommes toutes d'accord. Donc dans ses peintures, il y avait déjà cette résille qui très bien faite, qui fait qu'on avait le volume extérieur, qui, enfin, tout ça, c'est vraiment l'amour du fétichiste. Il veut nous idéaliser vraiment à complètement chaque forme, comme la main avec le gant, les jambes gainées, tout ça pour faire ressortir sa forme magique de son idéal, d'une jambe idéale, d'une main idéale, d'un visage idéal. C'est complètement obsessionnel, l'idée vers une même chose qui n'est pas la réalité, qui est vraiment fantasmatique. Il a réussi à le faire en peinture, il a réussi à faire en photo avec son propre corps, justement comme dans cette histoire d'aller repeindre les tirages pour les refotographier, pour en arriver à quelque chose de moins en moins réaliste, l'essence même du fétiche, mais qu'il a incarné lui-même, donc c'est vrai que c'est assez fort.
J'ai tout un ensemble de photographies de Molinier, puis j'ai aussi un objet fétiche qui est un godemichet.
Patricia Dupuis.
Que j'ai aussi depuis très longtemps, enfin qui est un objet qui reste pour l'instant fétiche dans une vitrine.
Est-ce que vous pourriez me le décrire, ce godemichet, et me raconter peut-être son histoire ?
Ce godemichet, oui, je l'ai acquis il y a longtemps en échange, peut-être d'un livre, je ne me souviens plus, c'était un échange en tout cas. Avec un amateur de Molinier. Et ce godemichet mesure à peu près 22 cm. Il est de proportions, disons, respectables. Et il est en fait vraisemblablement en papier mâché, mais très réaliste, recouvert d'un bas. Et ensuite, il y a dessus quelque chose qui semble un peu usé, une matière usée. Je pense que c'était un préservatif. Donc, il y a collé au bas. Et donc, cet objet que je considère comme une espèce de relique profane, je l'ai fait mettre dans un reliquaire fait par Pierre Mercier en dentelle noire. Et quand on l'ouvre, on a une croix où est écrite la date de sa mort, c'est-à-dire 3 mars 1976, et puis une photographie de lui avec ce fameux godemichet.
Une photographie avec le godemichet. Alors que représente la photo ? Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette photo ?
Eh bien, c'est une photographie où on peut dire qu'il s'encule, tout simplement.
Il a une tenue particulière ?
Alors, évidemment, il a donc cette fameuse paire de bas noirs, ses chaussures à talons très très hauts, ce corset qui lui serre la taille et qui fait ressortir donc cette poitrine qui n'existe pas, mais enfin en tout cas qui est suggérée, ce masque noir qu'il porte habituellement, et puis donc c'est il a une position, disons... comment dire, cambré avec ce godemiché.
Vous l'avez transformé, le godemiché et la photo, en un reliquaire. Alors, pourquoi cette idée de reliquaire ?
Parce que j'aime bien cette idée de la relique profane, c'est-à-dire que c'est le témoignage, pas seulement d'un homme et de son histoire, mais c'est de ce qu'il a pu générer comme imaginaire. Et qui reste dans la culture, en fait. C'est ça, il a fait partie sur les marges du mouvement surréaliste, même si André Breton n'appréciait pas forcément ses photos. Mais il a fait partie quand même de l'histoire de l'art, de manière extrêmement confidentielle. Mais c'est une véritable existence, et ce godemiché en est quelque part la trace. Donc c'est un objet que je considère, oui, comme une relique profane.
Vous en avez d'ailleurs des
photos
de Pierre
Molinier ? Oui, j'en ai acheté. Dès que j'ai pu, j'ai acheté des photos de Molinier. Pas grâce à la vente de mes propres photos, mais quand j'ai débuté ma carrière, en fait, il m'a fallu trouver du travail. Donc j'ai travaillé dans la publicité, et la publicité à l'époque était relativement rentable, donc j'ai pu me payer des Moliniers. Des petits Moliniers.
Pourquoi est-ce que vous vouliez avoir ces petits Moliniers, justement pour pouvoir les tenir dans la main ?
Pour pouvoir les avoir, parce que quand j'en ai vu une fois, j'ai eu envie de les posséder, c'est sûr. Pour avoir chez moi des petits objets que je pouvais regarder sortir d'une enveloppe et les manipuler. C'est ça le fétichisme, un petit peu. On est fétichiste ou on ne l'est pas.
Est-ce que vous pourriez nous les montrer, ces petits Moliniers ?
Bien sûr. Alors moi je suis pas fou des photomontages, j'aime bien les petites photos de lui ou des modèles féminins qu'il a pu photographier, qui étaient des amis, des jeunes filles qu'il rencontrait dans la rue, qu'il abordait dans la rue à Bordeaux, ou bien sa voisine, etc. Et donc j'ai acheté beaucoup de petites photos insignifiantes, là. J'ai une boîte où je les ai dans des enveloppes. Je sors la première, ça c'est une photo de lui où on voit justement très très bien son paravent et où il est masqué, parce que bon, il a commencé la photo en 1960, donc il avait 60 ans, il est né en 1900, donc c'était un vieux monsieur. Il était très fier et très admiratif de ses jambes, donc quand il y a des jambes, c'est toujours les siennes. Ah, j'ai une photo d'ailleurs qui est assez emblématique, il faut que je la retrouve, c'est Molinier. Je vais la trouver, elle doit être par là. C'est Molinier avec la poupée. Alors, on voit... Ah la voilà. Donc c'est une des rares photos finalement où on voit le visage de Molinier à découvert, sans masque, puisqu'il s'était fabriqué des masques pour couvrir son visage et pour ressembler à la poupée finalement. Il s'identifie à la poupée. Dans le travail de Molinier, il y a une relation à l'androgynie qui est très forte. Il veut s'identifier à une femme. Une de ses devises, c'était « Je suis né homme, putain ». Donc c'est assez parlant. Et donc cette photo, que j'aime beaucoup... On voit dans le décor, on voit son appartement et on voit un tableau qui est le tableau, je crois que c'est le Grand Combat, a priori, comme ça, c'est le tableau qui est monté sur un chevalet. Et puis, on voit au premier plan, devant le tableau, on a un personnage ou un personnage double, en fait, comme un hydre, finalement, puisque on voit deux visages. Il y a le visage de Molinier avec des lunettes, avec des verres teintés, des lunettes de soleil assez graves, et contre son propre visage, le visage de la poupée, et puis le buste de la poupée, et puis ce qu'on croit être les jambes de la poupée, puisque c'est dans l'alignement du buste, et on voit les jambes croisées de la poupée, et en arrière-plan, en fait, on voit une jambe de pantalon avec une chaussure d'homme, et on imagine que c'est que c'est la jambe de Molinier. Mais en fait, c'est pas du tout ça, puisque les jambes sont celles de Molinier, et c'est pas un photomontage. C'est vraiment, il a disposé le buste de la poupée sur ses genoux, et il a fait en sorte qu'on pense que ce sont les jambes de la poupée, mais ce sont ses vraies jambes qui sont gainées, bien sûr, comme d'habitude, de bas noirs et chaussées d'escarpins de chez Ernest en cuir verni, pour le coup. Voilà, j'aime beaucoup cette image-là, mais bon... J'ai pas mal de photos de la poupée elle-même. J'aime la poupée et puis des petits modèles.
Le fétichisme, voyez-vous, c'est pas dangereux. Pas dangereux.
Quand vous avez violé le cadavre de votre sœur,
ah oui, mais ça, c'est parce que. Ma sœur, je l'avais photographiée, j'avais dit à mes parents, surtout ne me dérangez pas. Alors j'avais fermé la porte à clé, elle était morte. Et je vous ferai voir des photos d'elle sur son lit de mort. Elle l'avait habillée en communiante. Alors elle avait des bas noirs. Et alors je lui avais caressé les jambes un peu, puis alors ça me faisait un effet. Alors je m'étais mis sur elle, et alors j'ai joui sur son ventre, morte. Elle était jolie quand même, elle était très jolie, même morte. Elle était très jolie. Et alors, comme ça, le meilleur de moi-même est parti avec elle. Oh, elle était très bien, ma sœur. Elle avait des jambes sensationnelles, elle avait de jolies jambes.
Molinier était un affabulateur. Toute sa vie, il a affabulé, il a raconté des histoires, il fallait le croire ou ne pas le croire. Dans le domaine de la technique, là, il n'affabulait pas. Mais dans le domaine sexuel, il lui arrivait quand même de grandement affabuler. Et donc, il faut prendre cet épisode-là avec des pincettes. Est-ce que sa famille l'aurait autorisé à 18 ans de s'enfermer dans la chambre mortuaire avec sa sœur? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il aurait eu cette éjaculation sur le ventre de cette sœur morte? Je n'en suis pas certain. Il est possible que ce soit de la fabulation et que ce soit la construction d'une image de lui-même et d'un personnage. Mais ça reste néanmoins une extraordinaire image.
Est-ce que c'est historiquement vrai, personne n'a de preuves, on s'en fout. Pour moi, c'est essentiel à la construction de son propre récit. Ce mensonge et sa vérité, encore une fois, on n'imagine pas Molinier s'enfermant, parce qu'en plus, il disait qu'il a dit qu'il a pris une photo de sa sœur et il montre cette photo. Donc, à l'époque, il faisait pas de photo. Donc, on sait que c'est pas possible, hein, factuellement, que c'est pas possible. Mais il l'a, en quelque sorte, rendu possible. Plus que vraisemblable, il l'a rendu évident. Et l'évidence du personnage, à mon avis, prime sur la vérité historique. Voilà. L'évidence de ce personnage, c'est toujours ce souci d'être lui-même et de se créer, de ne pas dépendre d'un créateur. Et donc, dans cette démarche qui a l'air extrêmement narcissique, c'est la condition de l'altérité, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. Et il allait vers l'autre à travers ça, c'est-à-dire en emmenant dans son courant des partenaires éventuels, soit par l'esprit, soit par le corps, à travers les jeux sexuels, en les embarquant, c'est-à-dire à vous de faire une partie du chemin après, mais si vous étiez embarqué, vous étiez dans une véritable relation avec lui, et plus qu'avec lui, avec une espèce d'universalité de ce qui concerne tous les êtres vivants. Et ça, c'est merveilleux, animaux compris, d'ailleurs, il fallait voir comment il parlait des chats.
Qu'il aimait beaucoup, hein.
Oui, merveilleux, Blandinet... Il a différé son suicide parce que le coup de pétard aurait fait sursauter le chat. Il savait pas comment faire et il s'est suicidé quand il a été absolument certain, après avoir testé plusieurs personnes, que son chat serait dans de bonnes conditions. L'identité de Molinier, c'est pas une photo d'identité avec une date de naissance, etc. C'est, je crée mon personnage et je le crée comme je veux. Je le crée comme je veux, comme je vais. Je suis pas né quand je voulais, mais je mourrai quand je veux. Et donc ce personnage-là, je crée, et ça, c'est ma vérité. Une autre histoire, c'est par exemple quand il était sous les jupes des apprentis couturières de sa mère et où il leur caressait les jambes. Et où il est le petit, oh, il est sous moi, etc. Et où il raconte qu'il leur caressait la chatte, etc. Il en racontait, il en faisait des tonnes autour de ça. Mais pourquoi ? Parce que, pour dire, depuis que j'ai ma connaissance, ce sont ces termes, depuis que j'ai ma connaissance, j'ai ce désir sexuel en moi, c'est-à-dire ce désir d'aller vers l'autre, d'interroger mon identité avec les moyens que j'ai. Voilà, et toute son œuvre a été assise autour de cet axe, sa recherche de l'androgyne primordiale, par exemple, et cette colère qu'il avait tout le temps, qu'il exprimait tout le temps, de n'avoir qu'un sexe, de ne pas avoir les deux sexes. Pour lui, ça l'intéresserait, les questionnements d'aujourd'hui sur l'identité, etc. Mais il serait toujours aussi en colère, puisque toute son œuvre, à la fois sur le plan humain et sur le plan artistique, a été d'essayer de reconstituer l'androgyne, ce qu'il appelait l'androgyne primordiale, c'est-à-dire l'être complet qui n'avait pas besoin d'un partenaire ou que tous les partenaires deviennent lui-même. C'est-à-dire, et c'est ça un des paradoxes de Molinier, c'est un être dont les directions, l'être est complexe, mais les directions sur lesquelles il s'appuie sont faciles à décrire et à cerner. Et ça, c'en est une. C'en est une qui est extrêmement féconde, et quand on l'a constaté, il est beaucoup plus facile de comprendre les propres récits, les propres narrations du personnage.
Et une image aussi, cette image de l'être androgyne qu'il a réussi à créer.
Il est un être androgyne. D'ailleurs, il ne veut pas être seulement femme. Il est homme, il ne peut rien contre. Il veut ajouter à sa réalité d'homme une réalité de femme. Mais il ne veut pas perdre sa masculinité. Par exemple, il n'aurait pas voulu qu'on lui enlève son sexe. Il tire plaisir de son sexe et il tire un plaisir supplémentaire de la part féminine qu'il a en lui et de tout ce que les femmes extérieures à lui peuvent lui apporter.
Pierre Petit, quelles ont été les femmes modèles importantes pour Pierre Molinier ? Annelle, la grande Magda ou Emmanuelle Arsan ?
Non, non. Emmanuelle, certainement pas. Emmanuelle, c'était du domaine de l'excitation mutuelle. Attention, c'est pas elle-même qui écrivait les romans, hein. C'est son mari qui les écrivait, Louis-Jacques. Emmanuelle était simplement quelqu'un qui apportait à nouveau des images, qui avait la capacité de proposer des images que son mari mettait en, si on peut dire, en musique, qu'il mettait en littérature. Donc Emmanuelle, c'est un merveilleux épisode de juxtaposition de deux domaines, le domaine de la peinture, le domaine de l'écriture. Probablement celle qui aurait été la femme la plus parfaite pour Molinier aurait été Annelle, oui, certainement. Nous savons très peu de choses de la grande Magda, puisqu'elle est décédée très tôt dans la vie de Molinier, et que nous n'avons pas de photos de la grande Magda. Il y a certains tableaux qui essaient de la représenter, mais on n'a pas de photos d'elle. En revanche, oui, Annelle a beaucoup compté pour Molinier. Elle avait des similitudes, des points de contact très proches avec Molinier, notamment sa passion pour les jambes, son fétichisme des jambes, son goût du sang également. C'était une très très belle créature.
Qui était le petit vampire ? Pour Pierre Molinier.
Le petit vampire était une jeune femme d'environ 20 ans qui habitait dans une partie de l'appartement que Molinier louait rue des Fossés, au 7 rue des Fossés. C'était un très grand appartement et il n'en occupait pratiquement que deux grandes pièces, trois pièces au maximum. Il y avait d'autres pièces qui se louaient à la mère du petit vampire et peu à peu, des liens amicaux se sont établies entre eux. Ensuite, évidemment, il y a eu des relations plus intimes, mais qui n'ont jamais abouti à des pénétrations sexuelles, par exemple. Hein. C'était toujours des jeux érotiques avec elle.
Pourquoi ce terme de petit vampire ?
Petit vampire parce qu'elle aimait sucer le sang de ses amants. Elle aimait mordre et sucer le sang. Et Molinier adorait se faire mordre et se faire sucer le sang. C'était très très modeste. Hein. N'imaginez pas beaucoup de sang qui coulait. Non, c'était des morsures et puis un petit peu de sang qui coulait, c'est tout. Les pincements, par exemple, il adorait être pincé sur les seins, il adorait être pincé sur les jambes, les pieds aussi. Et puis avoir des caresses sexuelles, tout ça faisait partie d'un jeu.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way. And though we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return.
Christophe Joron-Derem, vous êtes commissaire-priseur et vous avez dirigé la dernière grande vente aux enchères consacrée à Pierre Molinier. C'était le 14 novembre 2016. On y trouvait ses objets fétiches, ses meubles, mais aussi bien sûr des dessins, des photomontages ou des collages. Christophe Joron-Derem, comment peut-on identifier les œuvres de Pierre Molinier ?
D'abord, les faux sur le marché de l'art commence à arriver quand les cotes sont élevées, si vous voulez. Donc Molinier, on peut pas dire que les photomontages de Molinier fassent des prix de dingue. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de fabriquer un faux Molinier quand la photo vaut 1500, 2000 euros? Pas forcément. Que la technique aussi est une technique très particulière. Donc on reconnaît son papier, on reconnaît son grain, on reconnaît sa façon de photographier. Je sais et je crois, et il y en a qui sont passés il y a pas très longtemps en vente, il y a effectivement des contre-types qui circulent, qui sont des photos de photos en quelque sorte. Et ça, il faut s'en méfier. Alors le comité Molinier veille. Je crois qu'ils font bien leur boulot. Et puis pour traquer les faux, il n'y a rien de mieux que les provenances. Donc quand vous avez des photos qui sortent comme ça sur le marché et qui n'ont pas de provenance, ou en tout cas on ne peut pas déterminer une provenance particulière, déjà il faut se méfier. Alors Molinier, il a distribué évidemment ses photos un peu à droite à gauche. Quand il y a eu la vente Emmanuel Arsan chez Arcurial ou la mienne, là on a des provenances absolument magnifiques. Tout le fonds Emmanuel Arsan avait été donné à Molinier à Emmanuel Arsan. Donc là, il n'y a pas de problème, tout est bon. Le fond de Françoise Molinier, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit passer une photo ou deux à droite à gauche, il faut bien retourner la photo. Alors effectivement, Molinier avait la manie des cachets et des signatures et des mots. Moi, j'ai des ouvrages, des œuvres de Molinier avec des 3-4 lignes surréalistes aussi, qui sont absolument formidables toujours. Et ça n'appartient qu'à Molinier, l'écriture de Molinier. Et certaines photos aussi sont signées. J'aime bien les photos signées, les photomontages signés, c'est pas mal d'avoir une signature. Et sinon, il faut être très vigilant, et puis vous savez, il y a des experts qui s'y connaissent et qui reconnaîtront toujours le grain de la photo, le papier, la façon dont le format, la façon dont c'est tiré, etc.
C'est très difficile de copier Molinier parce que tout de suite ça se voit. On peut être influencé par Molinier, mais si on fait quelque chose esthétiquement dans le sens de Molinier, tout de suite c'est du Molinier. On peut pas faire mieux quelque part. Après, ça fait plagiat. Non, je vois pas d'artiste qui se soit vraiment vraiment inspiré. Sinon, dans des hommages, faire un hommage à Molinier, oui, bien sûr. Donc, on fait quelque chose qui est très moliniesque. Mais comment copier cet homme qui est très particulier? C'est vraiment un artiste brut, quelque part. Sa peinture est très difficile. Elle est très étrange. Il y a rien de comparable dans l'histoire de l'art, je pense. Pour moi, c'est le seul photographe dont on a l'impression qu'il part d'un papier noir pour imprimer sa photo en blanc dessus, alors que en photo on part d'un papier blanc et puis on dessine avec la lumière, mais on dessine au noir. Et lui, on ne sait pas pourquoi, ça donne l'impression que le papier était noir et que dans ce noir il a imprimé quelque chose avec du blanc. C'est bizarre, c'est pas comme ça que ça se fait, puisque c'est quand même du papier photo. Il était blanc au début, mais le papier, il est noir autour et il est blanc au milieu.
Je suis obsédé, n'est-ce pas? Je voudrais prolonger, n'est-ce pas, au-delà de moi-même, je voudrais prolonger, en somme, ma personnalité.
Oui.
C'est en somme le refus, c'est une sorte de refus de la mort. Oui. Parce que mes tableaux, bien entendu, je vais mourir comme tout le monde.
On vous souhaite que ce soit le plus tard possible.
Mais je laisserai, après moi, je laisserai quelque chose qui continuera à vivre. Hein. Vous comprenez? Je laisserai le souvenir, en somme, la survivance de mes passions.
Je relisais hier soir Les Orphéons magiques. C'est ce seul texte qu'il a écrit, qui a été publié par Thierry Agulot. Et j'ai été frappé d'une chose. Il y a deux poèmes dans lesquels il dit « Qu'es-tu ?» et un autre « Qui es-tu ?» Et donc, dans toute la séquence de ces poèmes où il y a des parties qui sont métaphoriques, des parties qui sont plus ou moins romantiques, des parties qui sont dans l'imprécation, il y a toujours la présence de l'autre qui est là. Toujours. Et puis, Satan, Satanicus, boucle d'oreille à l'anus, et puis tout d'un coup, mais qui es-tu? Qu'es-tu? Etc. Et donc, ce réveil constant par le rayonnement du personnage, son charisme, la non-différenciation entre la sphère privée et la sphère publique, l'implication après les premiers entretiens de l'homme et de l'art, il n'y avait plus de frontières, nulle part. Il n'y avait plus aucune frontière. Et nous, comme on est en général construit, enfin, nous-mêmes, jeunes gens, on est construit sur des récits, sur des descriptions du monde, avec des repères, des références, etc. Se trouver en face de quelqu'un qui nous donnait à voir qu'il n'y avait absolument aucune référence, on était comme avant le langage, sans aucune sécurité, en quelque sorte, en débarquant sur une planète étrangère, avec aucun code d'interprétation ni de compréhension. Donc c'est peut-être le pouvoir des grandes œuvres d'art de provoquer ça, de cette espèce de brèche dans la perception ou dans l'intimité des gens. Mais lui, sa présence incluait tout ça et provoquait ce que je viens d'essayer de dire.
Il vous a ouvert un chemin.
Mais, c'est-à-dire, il a facilité, il a personnellement, hein, je ne parle que pour moi, il m'a facilité ma propre démarche dans le sens où j'ai plus eu aucune hésitation, ni sur le plan de la relation entre des fantasmes qui me traversaient et leur expression, et surtout l'évacuation de la présence implicite du jugement de l'autre sur ce que je faisais. Molinier était content d'être reconnu par Breton, etc. Mais il était très à l'aise avec ça en même temps. C'est-à-dire, qu'on le reconnaisse, tant mieux, mais qu'on le reconnaisse pas, tant pis. C'est-à-dire, je continue ce que j'ai à faire, et puis basta. Donc cette espèce de droiture, j'allais dire, de quasi mystique, sur la puissance de sa colonne vertébrale, de son inspiration, de ce qu'il appelait sa passion, de son axe, cette manière de ne pas dévier, là, ça m'a énormément facilité les choses. Parce que dans une vie d'artiste, évidemment, on a tous ces aléas qui vont de petites reconnaissances en grosses déconvenues. qui sont l'écume, si vous voulez, qui ne doivent pas faire dévier de l'axe. Donc ça, j'avoue que Molinier, je lui suis extrêmement redevable de cette liberté, simplement parce que je l'ai vu incarner en lui.
Selon vous, Jacques Abeille, pourquoi Pierre Molinier s'est donné la mort ?
C'était prévu. Oui, mais il l'a toujours dit. Et il a poussé les choses assez loin sur cette question. Il a dit, le jour où je banderai plus, je me brûle la cervelle. Près du très grand lit, il y avait une table de nuit, et dans le premier tiroir, il y avait un Colt. Je lui ai dit, c'était un revolver type western. Un gros pétard. Il dit d'ailleurs, vous voyez, je l'ai là, à portée de main. Il dormait effectivement avec ce revolver à portée de main. Alors il avait aussi des ennuis de santé. Mais un jour, il s'est senti affaibli au point que, vous savez, c'est tellement merveilleux. La bite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour où ça a plus fonctionné, où ça a commencé à montrer des signes de défaillance, ben, il s'est brûlé la cervelle, c'est tout. Il n'avait plus de motif pour vivre, plus de projet. Alors c'était ça le projet. Hein. C'était pas seulement d'être banalement un grand artiste. Cet organe, très valorisé, peut-être trop, bien sûr, il ne restait plus rien après. Et quand je dis qu'il avait approfondi la question... Il avait fréquenté un médecin à qui il avait demandé si on pouvait greffer l'appareil génital et surtout la verge d'un homme. Et l'autre a répondu, non, ça c'est hors de question, en tout cas en l'état actuel des connaissances. Il me m'a fait part de sa déception. Vous comprenez, j'aurais bien aimé qu'il y en ait qui en profitent, parce que c'est quand même... un ingène tellement efficace, il m'a donné tellement de satisfaction. Partir en me disant qu'il y en a un autre qui va en tirer le même plaisir, ça me plairait, ça est bien. Mais non, ça ne se greffe pas, ça se transmet pas.
J'ai dit, tiens, je vais fabriquer une croix pour moi aussi. Alors j'avais fabriqué une croix avec ce que vous voyez, cet homme sans moralité, mort vert, etc. C'est-à-dire, ce fut un homme sans moralité, il s'en fit gloire et honneur, inutile de prier pour lui.
Pierre Molinier, à mon seul plaisir, un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret. Avec par ordre d'apparition Jacques Abeille, Pierre Molinier, Pierre Petit, Pierre Chavot, Françoise Garcia, Gilles Berquet, Mirka Lugosi, Patricia Dupuis et Christophe Joron-Derem. La voix de Pierre Molinier est extraite des archives personnelles de Patricia Dupuis des éditions du Renard Pâle. Il s'agit d'un enregistrement de Jean Bernard fait en 1971 et des archives de Pierre Chavot publiées en 2003 en livre CD Molinier, entretien avec Pierre Chavot aux éditions Opale. À la technique, Jean-André Giannichini et Audrey Guélil. Mixage, Alain Joubert. Attaché de production, Claire Poinsignon. Toutes les références bibliographiques, musicales et sonores sont à retrouver sur le site de France Culture à la page d'Une vie, une œuvre.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver l'ensemble de la collection des émissions Une vie, une œuvre sur franceculture.fr. Une page préparée par Pascaline Bonnet. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.